19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, nous sommes ensemble. Ensemble pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Ravi puisque au menu, je vous propose eh bien, plusieurs choses ce soir de jusqu'à 20h. Ensemble, figurez-vous. D'abord, vous êtes prioritaire. 01 53 48 3000, le standard est ouvert en permanence. 3-4 sujets, on verra en fonction du temps qui nous reste. Éric Zemmour, tiens, qui veut privatiser France Télévisions et France Inter. On en parle dans... tout à l'heure avec les débatteurs, notamment l'audiovisuel public, en particulier ces deux identités, ces deux établissements publics. Ensuite, la CAN 21. Tiens, une lettre des clubs révélée, justement, qui dit que la CAF veut annuler tout le tournoi. La polémique enfle et elle ne cesse d'enfler sur les réseaux sociaux, puisque l'Association des clubs européens aurait en effet communiqué officiellement que la CAN a démenti, bien on va en parler, on ne sait pas trop, on est encore dans le flou, mais on va en parler tout à l'heure. Ensuite, les présidentielles Cluster 17, ce nouveau sondeur qui place Mélenchon à 13% des intentions de vote. Eh bien, on tentera de décrypter ce sondage des élections présidentielles. Et enfin, le Covid, mais où allons-nous? Où allons-nous, puisque justement, le nouveau variant... Que doit-on faire? Comment doit-on se comporter? Comment doit-on réagir? C'est les questions qu'on se pose ce soir, ici même, dans les informés. Ensuite, après, vous aurez le Quoi de Neuf avec d'abord Maître Fabrice Divisio à l'ouverture de cette émission. À 19h30, un autre Quoi de Neuf avec la signature du docteur Majid Seoussine. Et puis notre invité tout à l'heure, Benjamin Sibyl, qui sera avec nous pour nous parler, vous savez quoi? Et bien, tout simplement, et de civisme. Oui, du service civique européen. Parce que ce soir, le président de la République en parle sur TF1. Allez, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et on ouvre l'émission avec le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est avec, comme chaque mercredi, Maître Fabrice Divisio. Bonjour Maître.
Bonjour.
Comment ça va mon cher maître Fabrice Divisio?
Ça va très bien, impatient, vous allez voir.
Ce soir, le président de la République va s'exprimer sur TF1, notamment durant un peu plus de 2 heures. Et votre signature, votre billet d'humeur tourne autour de l'intervention d'Emmanuel Macron. On vous écoute pour le Quoi de Neuf.
Eh oui, mon cher Adil, je dois me dépêcher, me mettre en hâte, me presser, car tout à l'heure, j'ai un rendez-vous de la plus haute importance et j'espère d'ailleurs vous y voir ainsi que tous nos auditeurs. Vous auriez dû, du reste, si vous étiez réellement républicain, interrompre vos programmes, réunir votre famille, appeler vos enfants, apporter chaises et fauteuils pour assister à l'événement en majuscule, s'il vous plaît. Car tout à l'heure, mon cher Adil, vous saurez. Tout à l'heure, nous saurons. Nous qui étions dans les ténèbres, nous aurons la lumière. Tout à l'heure, dans un instant presque, nous aurons la révélation, celle que nous attendons depuis trop longtemps déjà. Vous voyez bien où je veux en venir.
Oui.
Faites donc un effort. Je vous parle de la France, mon cher Adil. De où va la France? Je vous parle évidemment de la grande allocution du président de la République à laquelle vous y allusions et qui nous révélera, tel les prophètes de l'Ancien Testament, de la France, de la noble et grande France, et surtout nous expliquera où elle va. Imaginez donc. Ouais. Nous saurons où va la France. Nous attendions de le savoir depuis tellement de temps que j'en suis impatient comme jamais je ne l'ai été dans ma vie. Car en effet, je veux savoir où va la France avec les magistrats qui soient sous le fardeau d'une justice impossible à rendre faute de moyens, d'un système éducatif à bout de souple qui se dégrade d'année en année, de meetings politiques qui doivent se dérouler maintenant sous votre protection, de professions qui sont attaquées par des imbéciles mais dont on fait presque une affaire d'État. Je suis impatient de savoir où va la France avec son pass sanitaire à l'hôpital et ses 60 millions d'euros dépensés chaque mois pendant que des patients meurent faute de lits disponibles, y compris à Paris, que des soignants sont suspendus et jetés à la rue pour de vagues raisons idéologiques et que ceux qui restent doivent fermer les fenêtres qu'il faudrait pourtant ouvrir à cause du Covid de peur de se jeter dans le vide en raison de l'épuisement qui est le leur. Alors oui, je ne saurais plus supporter l'attente de savoir où va la France du quoi qu'il en coûte, la France qui s'autocongratule en permanence et qui a érigé la méthode Coué en méthode de gouvernement. Oui, mon cher Adil, j'ai hâte d'entendre notre bien-aimé président de la République nous expliquer. Voilà. Car pour ma part, je crains avoir déjà la réponse. Dans le mur. Oui, la France va dans le mur. Le mur de la haine, le mur de la pauvreté, le mur
de la violence. Vous y allez fort, mais non.
Je suis donc pressé d'entendre, enfin, mon président bien-aimé nous l'avouer dans un élan de vérité qui le caractérise, dans un mystérieux élan de grâce divine qui fait reconnaître au pécheur sa faute et qui demande le pardon de celle-ci afin d'être remis en chemin. C'est ce chemin qui m'intéresse, car après la contrition de notre souverain, j'aurai encore plus d'impatience à entendre le demi-tour, la métanoïa, la conversion que notre pays sous son impulsion va enfin opérer. C'est bientôt Noël, après tout. On a encore le droit, mon cher Adil, de croire, de façon un peu enfantine, au Père Noël et à sa hôte pleine de cadeaux. Allez, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec mes rêves.
Ah, j'ai rendez-vous avec mes rêves. Maître Fabrice Divisio et sa signature du Cognac, comme chaque mercredi. Je crois savoir que vous serez face à Éric Zemmour demain chez Cyril Hanouna, me semble-t-il.
Alors, en fait, j'ai décliné l'invitation.
Ah, vous avez décliné ?
Oh, c'est dommage.
Ouais, ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage.
Je ne veux pas,
c'est dommage.
Je ne voulais pas avoir seulement 10 minutes face à Éric Zemmour sur un sujet.
Mais si, 10 minutes, c'est beaucoup, c'est là, bien 10 minutes, c'est dommage. Maître Divisio, c'est dommage, je vous le dis.
Je vous annonce, par contre, je vous le redirai, mais que nous aurons un débat, mais cette fois-ci de 40 minutes en face à face avec Éric Zemmour dans les prochaines semaines.
Eh bien, écoutez, tenez-nous au courant, on suivra ça avec absolument beaucoup d'attention, effectivement. Merci, mon cher maître Fabrice Divisio. À très bientôt avec une autre signature. Au revoir, à très bientôt. Le 19h06, c'est l'invité et l'invité actue tout de suite.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
L'invité, interview de la semaine, du jour.
Les informés. L'interview.
Et c'est avec Benjamin Civil. Bonjour mon cher Benjamin.
Bonsoir Adil et merci de me recevoir ce soir.
Eh bien écoutez, c'est avec grand plaisir mon cher Benjamin Civil. Vous êtes le président fondateur de ce qu'on appelle, vous savez, d'un collectif du service civique européen. Ce service civique européen qui sera traité notamment ce soir par Emmanuel Macron, puisqu'on le sait d'ores et déjà, effectivement Emmanuel Macron veut un service civique européen de 6 mois pour les moins de 25 ans. Et vous êtes le fondateur, président, justement, de cet esprit. Dites-nous, quel est l'esprit et le concept de ce collectif du service civique européen, mon cher Benjamin Civil?
Alors, ce soir, on ne prétend pas vous illuminer, mais juste partager effectivement un engagement qu'on pense quand même important pour effectivement dresser une direction pour l'Europe, pour les jeunes aussi, pour peut-être plus d'espoir dans une époque où on en a besoin. Le collectif pour un service civique européen, donc c'est un collectif de jeunes avant tout, puisque tous les membres ont moins de 30 ans. L'immense majorité sont des bénévoles qui donnent de leur temps sur leur temps libre, sur leur soirée, pour faire vivre une idée. Et en fait, cette idée, c'est ouvrir la mobilité européenne, donc la possibilité d'aller dans un autre pays de l'Union européenne à tous les jeunes, mais le faire d'une manière particulière à travers l'engagement citoyen, donc en réalisant des activités d'intérêt général. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans notre identité en tant que collectif, puisque, comme je l'ai dit, c'est avant tout quelque chose qui a été monté avec des jeunes qui eux-mêmes donnaient de leur temps, de leur engagement.
C'est nouveau, me semble-t-il, Benjamin Civil, hein. C'est tout nouveau, hein.
Alors, ça fait 4 ans que j'ai fondé le collectif. Il a beaucoup pris d'essor depuis. Et puis, surtout, on a pu envoyer les premiers volontaires, donc les premiers volontaires de ce programme un peu innovant qu'on a testé en 2020 avec l'association Unicité, qui elle-même est la grande association qui, en France, a participé à créer le service civique français que peut-être les auditeurs connaissent. Et en fait, ce qu'on propose et ce qui est testé depuis 2020, c'est tout simplement de permettre à des jeunes de faire 6 mois de service civique dans leur propre pays, donc en France, en allant aider dans des hôpitaux, en allant intervenir dans des écoles pour aider pour les devoirs, en faisant des activités environnementales, et donc faire ça pendant 6 mois dans son pays, et se préparer à ensuite enchaîner avec 6 mois d'un autre instrument européen que peut-être les gens connaissent moins, qui s'appelle le Corps européen de solidarité, et qui permet déjà de se rendre dans un autre pays de l'Union européenne faire la même chose.
Alors j'ai compris l'esprit, mon cher Benjamin Civil, mais tout cela, évidemment, comment se traduit tout cela? Est-ce que ça permet à ces jeunes, justement, d'avoir une expérience supplémentaire au sein de cette Union européenne? Comment ça se traduit, mon cher Benjamin?
Nous, notre objectif, il est simple, c'est ouvrir les portes de l'Europe à tous. Et on voit qu'aujourd'hui, Erasmus, ça concerne beaucoup de monde, mais ça concerne pas ceux qui ne font pas d'études, ça ne concerne pas des jeunes qui peuvent parfois se retrouver dans la précarité, dans le chômage. Et en fait, ça concerne pas aussi ceux qui ont peut-être envie de donner plus de sens à leur mobilité dans un autre pays. Pour nous, l'Europe, alors on est bien conscient que c'est quelque chose qui peut paraître très théorique, très éthéré, mais justement, on pense que ça ne devrait pas être simplement des traités, des sommets. Pour nous, l'Europe, c'est Maxime qui, après avoir été décrocheur scolaire et venir d'un quartier politique de la ville, il s'est engagé dans cette expérience à Metz. Et après, il a pu faire 6 mois de service civique en Italie.
Donc, si j'ai bien compris, Benjamin Sibyl, elle s'adresse également aussi aux décrocheurs. Elle s'adresse aussi aux jeunes qui n'ont pas de formation. Et elle s'adresse aussi également aux jeunes des quartiers populaires.
Oui, j'ai envie de dire qu'elle s'adresse à tout le monde. Donc, elle s'adresse notamment à eux. Mais le but, ce serait d'avoir une expérience qui permet justement de refaire société et de connecter les jeunes entre eux. Et on est effectivement... très content que, voilà, jeudi dernier, le président de la République a annoncé ce projet de service civique européen pour tous. On aimerait bien d'ailleurs entendre la parole des jeunes. J'imagine que ceux qui nous écoutent auraient peut-être envie de réagir. Est-ce qu'eux se verraient partir, voilà, pour 6 mois dans un autre pays, se rendre utile sur...
Ah ben, je peux vous confirmer qu'ils veulent se barrer, ça c'est sûr.
Mais est-ce qu'ils le font pour les bonnes raisons?
Oui, ça c'est une autre question, vous avez raison.
Mais effectivement, derrière, c'est un projet humain, parce qu'en fait, l'Union européenne, avant tout, c'est ça, c'est connecter des gens entre eux et avoir envie d'avancer ensemble. Et nous, on aimerait bien que ces jeunes, qui sont avant d'être des jeunes, sont des citoyens, qui puissent trouver leur place dans la société à travers ces missions d'intérêt général et qu'on ait conscience de tout ce qu'ils peuvent apporter à la société.
Ce qui me plaît, Benjamin Sibyl, dans ce service civique européen, justement dans votre innovation, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette ouverture d'esprit à la fois, mais également aussi avec cette, évidemment, formation que vous apportez. Ça me plaît beaucoup, cette ouverture, vous savez, ça donne un vrai bol de respiration à l'extérieur, en dehors de l'Hexagone.
C'est ça. C'est
mieux connaître ça. L'autre, en gros.
Oui, mieux connaître l'autre et puis mieux se connaître soi-même. Parce que aujourd'hui, on a à peu près 100 de volontaires qui sont dans ce programme. Le corps européen, donc qui est le programme européen qui existe, c'est 50 000 jeunes pour toute l'Union européenne. On est très loin des 4,6 millions de jeunes d'une classe d'âge européenne, qui est ce qui a été annoncé par le président de la République. Mais en fait, c'est des jeunes qui, au terme de leur expérience, nous on le voit, tous nos jeunes sont revenus en étant capables de parler une autre langue.
Ouais.
Et parfois, c'est presque miraculeux. Parce
c'est
qu'en
génial.
Fait, on rassemble des jeunes toujours, je vous ai expliqué, donc ils commencent chez eux, puis ensuite ils vont ailleurs. Et ça nous permet en fait de créer des groupes mixtes. On va toujours avoir une moitié de jeunes du pays qui sont en train de se préparer et une moitié qui sont déjà partis dans un autre pays. Et ça, on voit qu'en fait, c'est presque magique. On apprend, on voit des Allemands, des Italiens. Alors pour les Belges, c'est un peu plus facile, mais apprendre en quelques mois le français juste parce qu'ils sont avec ceux qui deviennent rapidement leurs amis, leurs camarades. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue comme ça.
Dites-moi, enfin, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter comme conseil à celles et ceux qui vous écoutent, partout en France d'ailleurs, et notamment plus précisément en direction des jeunes?
Moi, si j'avais un conseil à partager, c'est celui qu'on tire de notre propre expérience. Alors, moi-même, je suis peut-être un moins jeune, j'ai 30 ans maintenant, mais quand je me suis lancé dans la création de ce projet, j'avais 25 ans. Et en fait, on est parti de rien, on a fait ça juste parce qu'on avait envie de se rendre utile à la société, on avait envie de porter une idée dans laquelle on croyait. Et je pense que malgré toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, c'est encore possible. Et s'il y a un esprit qu'on peut partager avec ce service civique européen, qui un jour peut-être concernera tous les jeunes d'Europe et donc tous les jeunes de France, et bien c'est cette idée que oui, on peut s'engager, oui, on peut changer les choses. Et si on le veut, et si on donne de son temps et de son énergie, et les jeunes sont les meilleurs pour le faire, eh bien, c'est possible d'avancer tous ensemble.
Merci Benjamin Sibyl, vous êtes le président fondateur du service justement civique européen. Vous avez un numéro de téléphone où on peut vous joindre dans ce collectif si on a besoin de compléter des informations?
Alors, vous pouvez nous joindre sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, vous nous trouvez, c'est collectif SCE, vous nous trouvez facilement aussi sur Google, on est sur Instagram. Peut-être qu'on pourra donner les informations pour quand vous publierez le podcast, que les gens puissent se rediriger vers eux.
Merci.
Il fallait un numéro de téléphone.
Merci.
Je peux donner le mien, mais ça risque de faire beaucoup.
Non, ça fait beaucoup. On ira sur les différents réseaux sociaux. Ouais. Merci Benjamin Sibyl. Vous êtes le président fondateur donc du service civique européen. Merci d'avoir été avec nous dans Les Informés. Merci. Et puis bon courage et bon vent à votre collectif. Hein.
Bah oui, et puis surtout à l'idée.
Allez.
C'est le plus important.
Mais absolument. À très bientôt. 19h14, 15 maintenant, bientôt. Nous allons marquer la première pause pub et on se retrouve dans une poignée de minutes. 01 53 48 3000. Vous venez, vous, évidemment, vous, commenter l'actualité, comme je l'ai dit, à la fois avec Éric Zemmour, à la fois avec la CAN, à la fois avec le Covid, mais aussi avec d'autres sujets certainement qui vous ont interpellé. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Et puis le face-à-face, Mehdi Bellabbas et Gamal Abina. Et à 19h30 aussi, l'autre signature du Quoi de Neuf avec Dr Majid Seoussine.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Et les 19h19 et les informés, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. 20h, justement, le face-à-face, c'est parti. Et le standard est ouvert d'ailleurs. 0153483000, si vous voulez réagir. Est-ce que le nouveau variant aujourd'hui, on doit s'adapter avec tout cela? Et comment doit-on se comporter aujourd'hui face à la flambée qui est en train évidemment d'emprunter notre quotidien et qui nous anime dans le quotidien? Que devons-nous faire? Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que vous avez évidemment des choses à nous préconiser? 0153483000. Jingle pour le standard d'abord.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
19h19, précisément, puisqu'on est précis, on est en live. Le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Gamal Abina, mon jeune Gamal brillantissime.
Jeune, c'est
gentil. Moi, j'aime parce que je suis dans la foulée de Benjamin Sibel. La jeunesse. Mmh. Ça y est! Le porte-parole et l'un des fondateurs du mouvement des droits civiques.
Absolument.
C'est relancé,
et puis on va aller.
Qu'est-ce qui se passe?
Il y a le risque de l'extrême droite au pouvoir, il y a les débats sur des questions de société nous concernant, et puis le fait que j'avais un peu démissionné à un temps sur ces questions-là. Et là, j'ai décidé de sortir de l'ombre, tout simplement, donc je vais commencer.
Ça va être une bataille pour vous.
Une vraie bataille, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à l'élection présidentielle, mais je vais absolument donner la contradiction, porter la contradiction à ces nouveaux agitateurs d'extrême droite qui s'imaginent tout savoir alors qu'ils ne savent pas grand-chose.
Le porte-parole du mouvement des droits civiques, il est avec nous. Et celui qui nous a manqué, tiens, Mehdi Bellabbas, vous êtes avec nous en direct par téléphone, Mehdi Bellabbas.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous. Bonsoir.
Mais vous nous avez manqué, Mehdi Bellabbas.
Moi aussi, vous m'avez manqué, Adil.
Ben oui, alors, que se passe-t-il? Quelle est votre nouvelle vie, mon cher Mehdi?
Eh ben, nouvelle vie dans cette belle ville de Perpignan. Ça fera plaisir à Gamal.
Absolument.
Perpignan, on nous écoute aussi, absolument.
Exactement, où de nouvelles missions professionnelles m'ont amené, oui. Mais où on reste très engagé sur les sujets que j'ai toujours défendus, dans l'écologie et sur les questions liées à la mémoire.
À la mémoire, vous êtes coprésidente justement du collectif de l'association des mémoires oubliées, si j'ai bien compris.
Pour la mémoire contre l'oubli.
Contre l'oubli, pardon. Voilà, pardon. Merci de la correction. Allez. Et vous êtes toujours écolo.
Toujours écolo, exactement. Plus que jamais.
Allez, c'est parti. Absolument. C'est parti, messieurs, je voudrais vous entendre, évidemment, à défaut de vous retrouver sur le plateau, vous êtes avec nous en direct par téléphone. J'aimerais vous entendre, vous savez quoi, ça m'a interpellé ce matin quand je l'ai entendu sur RTL. Mmh. Éric Zemmour qui fait une déclaration assez, pour la moins surprenante, qui dit vouloir... il faut, attention, en filigrane, il y a quelque chose à comprendre. Hein.
Bien sûr.
Il dit, je veux faire disparaître la redevance audiovisuelle, très bien. Et en même temps, il dit, je veux privatiser France Inter et France Télévisions. D'abord Gamal Abina et Mehdi Bellabbas. Que doit-on, quelle grille de lecture doit-on avoir?
Bon, déjà, c'est un peu ingrat de sa part. C'est quand même la télévision française publique qui l'a fait émerger. C'est pas du privé. Et surtout, là où on se rend bien compte qu'on commence à avoir affaire à un ultralibéral, c'est quelqu'un qui, comme Thatcher à son temps, veut liquider le patrimoine national, les bijoux de famille. Alors, je tiens à rappeler quand même que la redondance TV est une discussion qui n'a absolument rien à voir avec le fait de posséder ou pas le service public. Quand on a bradé TF1 à Bouygues à l'époque, ça a été une véritable poule d'or, puisque TF1 est la chaîne la plus rentable au monde, pas en Europe, au monde. C'est extraordinaire comme réussite.
Au monde.
Au monde, oui, c'est une rentabilité hallucinante. On a vu ça nulle part. Et surtout, et c'est plus important, vouloir liquider comme ça des structures qui fonctionnent, qui sont rationalisées, qui sont rentables. Aujourd'hui, le service public, quoi qu'il arrive, même avec la crise du Covid, est resté rentable. C'est une façon de liquider ce qu'il n'aime pas. Alors, en substance, pourquoi? Parce que le service public, je parle de l'information pour le coup, l'information dans le service public est sérieuse. On n'est pas dans l'info spectacle qu'on voit habituellement sur le service privé, dans les chaînes tenues par des milliardaires ou comme Bolloré ou Drahi, mais on est sur l'information qui essaie d'être le plus objectif possible et surtout le plus près de la réalité et de l'analyse. Ça, c'est pas du spectacle. C'est-à-dire que quand ils informent, ils n'ont pas fait monter Zemmour en boucle, par exemple. Ils n'ont pas fait monter dans les sondages parce qu'ils ne recevaient que peu, voire pas du tout. C'est arrivé peut-être une fois et encore. Alors que dans le privé, évidemment, on cherche à rentabiliser l'information. Donc faire du spectacle, faire de l'info pour l'info, mais l'info qui soit un petit peu anxiogène, qui soit un petit peu dans le clash. C'est très loin du service public. C'est normal que M. Zemmour ne soit pas amoureux du service public, parce que le service public n'a jamais servi la soupe une fois qu'il s'est présenté comme étant ce qu'il est aujourd'hui, un homme d'extrême droite. Mais en revanche, lorsqu'il veut aussi liquider la première radio de France, quand même, hein, on parle de France Inter, c'est une radio qui fonctionne aussi.
Mais il se venge, c'est quoi derrière? C'est une façon de quoi?
C'est deux postures. Il joue les ultralibéraux, lui qui est un millionnaire, rappelons-le quand même, hein, parce que j'en oublie que ce monsieur qui prétend parler pour les pauvres est un millionnaire. Et de l'autre côté, il se venge d'un service qui ne lui a pas servi la soupe. C'est-à-dire qu'il a émergé dans le service public à l'époque de Ardisson, quand il y a l'époque de son émission du samedi soir, mais depuis, le service public ne lui parlait plus. Alors, il y avait encore quelques émissions avec, évidemment, avec Ruquier, mais il était tenu en laisse. C'était pas la star. C'est une espèce de joker, comme ça, un peu excité, qui devait donner la contrepartie à l'autre Eric, qui est son pote d'ailleurs, Eric Nolot. Donc, il y avait le côté gauche, le côté droit, extrême droite. Mais, aujourd'hui, effectivement, c'est une façon de se venger. Alors, étonnamment, on peut penser qu'il aurait pu se venger TF1. Rappelons quand même qu'il était un peu bousculé par M. Boulot. Ben non, il se venge du service public.
Donc, le présentateur du JT.
Et puis c'est très opportun, très populiste. Hein. Quand on dit attention, vous payez la redevance, ça coûte trop cher. Lui, il va plus loin que les autres. Il dit quoi? Il dit plus de redevance, liquidons le service public. En substance, c'est dire à cause du service public, vous payez et vous n'avez pas payé. Voilà ce qu'il en est.
Mehdi Bellabaj, je voudrais vous entendre justement concernant les déclarations d'Éric Zemmour. Il fait campagne, ça y est, désormais, il est rentré hein, et commence à lancer les quelques idées de sujet. Hein. Mehdi Bellabaj.
Oui, il se positionne, il rejoint Gamal, il se positionne en tant que victime du service public aujourd'hui, qui le service public ne lui servirait pas suffisamment, je vais dire, la soupe, quelque part. Et on a quelqu'un là qui est quand même dans l'imposture, parce qu'il a eu du temps d'antenne sur le service public, ça a été rappelé, et aujourd'hui il se positionne en tant que victime. Il voudrait faire payer au service public, qui est une victime assez facile à utiliser, à mobiliser. Parce que les gens, ils payent une redevance pour ce service public-là. Mais quelque part, ils s'attaquent aussi au symbole que représente le service public en termes d'offres.
Exactement.
C'est la diversité.
Exact.
Ils s'attaquent à la diversité comme le service public, parce que le service public propose des programmes qui doivent parler à l'ensemble de la population. Et ça, lui, ça ne l'intéresse pas. Il veut parler qu'à une seule partie de la population, en excluant les autres, et donc il veut aussi punir le service public pour cette diversité de tons, d'approches, de programmes qui parlent à l'ensemble des...
Alors j'aimerais vous poser une question différemment, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut supprimer la redevance télé, aujourd'hui, est-ce qu'elle est justifiée ou faut-il la maintenir?
Alors, en vérité, elle n'est plus justifiée pour deux raisons.
Parce que rien à voir, je vous pose la question en dehors d'Éric Zemmour.
Pour éviter la redevance TV, d'abord, il y a le principe d'avoir l'internet la télévision sur Internet. Déjà, donc, on peut éviter d'avoir un téléviseur, on prend un écran d'ordinateur. Ensuite, et surtout, parce que c'est une redevance qui a plus beaucoup de sens dans la mesure où la télévision pourrait s'autosuffire par la publicité. C'est vrai que le gros du financement du service public, c'est la redevance. Mais s'il y avait une réforme, parce que là, ils ont baissé le temps de publicité. S'il y avait une réforme pour faire en sorte que le service public soit beaucoup plus interactif avec le monde du privé, faire en sorte que les annonces faites dans les pages publicitaires soient plus chères, faire en sorte effectivement que la télévision publique devienne rentable de façon autonome, à ce moment-là, la redevance ne se justifierait pas. Mais j'ai envie de dire simplement, pour conclure mon propos, vouloir tuer le service public, c'est vouloir tuer France 5, par exemple. Vouloir tuer des chaînes de qualité en termes de programmation. France Inter, mais je parle même pour la télévision. La programmation des services publics, ça reste quand même une certaine programmation de qualité dans la mesure.
Ah oui, elle est de qualité aujourd'hui.
On n'est pas tombé dans la télé-réalité, on n'est pas tombé dans tous ces trucs, tous ces excès dégoûtants qu'on a sur le service privé. L'information reste quand même de qualité, même si elle baissait. Mais quoi qu'il en soit, il y a un souci non pas de faire du chiffre pour le chiffre, ils pourraient le faire, hein, c'est pas compliqué. Mais ils cherchent surtout à faire leur travail, la fonction première, à savoir informer. Et ça, informer, divertir de façon intelligente. Le service privé ne propose pas ça. Ils font dans la vulgarité, ils font dans la télé-réalité, ils font dans les gros blockbusters, ils font souvent dans la faux spectacle, comme j'aime le dire, donc de la désinformation.
Dans le voyeurisme.
Comment ? Dans le voyeurisme, absolument, on est vraiment dans la vulgarité pure et dure. Et là, l'inquiétude qu'on pourrait avoir, et je renvoie aux années Thatcher a voulu tout privatiser jusqu'au rail, et on s'est rendu compte qu'il y avait des accidents tout le temps. Parce que, évidemment, le maintien de la qualité, ça a un coût. Et en l'occurrence, le service public, c'est un coût.
Mehdi Bellabaj ?
Ouais, juste pour aller dans le sens de la sauvegarde du service public, la redevance... J'y suis pas attaché plus que ça, mais parce qu'effectivement, Gamal l'a rappelé, il y a la publicité. Mais derrière, il y a aussi, moi je pense aux médias qui vont permettre d'avoir des informations de nos territoires d'outre-mer, qui vont donner de l'information dans les territoires où on a une information de qualité. Moi je pense comme Gamal que la publicité doit pouvoir financer aujourd'hui très largement le service public des médias audiovisuels. Mais on a aussi une gestion du service public de l'audiovisuel qui est un peu parti dans tous les sens avec la multiplication de chaînes, de programmes, etc., qui n'étaient peut-être pas les plus opportuns, et qu'on donnait l'impression que ça partait un peu dans tous les sens, que l'argent n'était pas utilisé.
Exact.
Donc, je pense qu'il faut aussi que le service public, il se pose des bonnes questions, qu'il se reconcentre sur son cœur de métier, sur ce qu'il sait faire de bien, la diversité, la pluralité des programmes, toucher l'ensemble des Françaises et des Français, mais qu'on ne dépense pas l'argent des contribuables n'importe comment. On sait qu'il y a eu quelques scandales avec les animateurs producteurs dans les années 90, etc., où l'argent des contribuables a été pas très très bien utilisé. Donc, comme tous les services publics, je suis pour le conserver, mais il faut être rigoureux dans la gestion.
Moi, j'allais dire un truc pour la petite histoire.
Alors, Gamal Abina,
Monsieur
avant
Zemmour,
de retrouver le Quai de Neuf.
63 ans, et il est normal qu'effectivement, quand Delphine Ernotte, qui est donc la DG du service public, a dit il y a quelques années, il y en a marre d'avoir des adultes de plus de 50 ans, européens, qui sont toujours de façon indécrottable arrimés au programme TV du service public, il fallait un petit peu rajeunir ça. Il est évident là aussi que Zemmour n'a pas apprécié la plaisanterie.
Absolument. Mehdi Bellabaz, vous restez avec nous. Gamal Abina également, il est 19h30 dans quelques secondes. Et tout de suite, c'est le Quoi de Neuf à l'heure.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Comme chaque mercredi, vous savez, c'est le docteur Majid Soussine qui est le chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi au SAMU, mais également aussi, parce qu'il cumule notre docteur, aux Invalides, chez les militaires. Bonjour mon cher docteur, j'ai presque envie de vous appeler professeur Majid Soussine.
On n'exagérerait pas, je suis déjà suffisamment arrogant sans qu'on m'en rajoute.
Et en plus, vous êtes drôle.
Une arrogance méritée en vérité.
Et c'est ça, exactement, méritée absolument. Mon cher docteur, vous avez décidé de nous signer votre billet d'humeur comme chaque mercredi. Eh bien, vous voulez faire référence aux zouaves. Mais c'est les zouaves quoi? Les zouaves d'ultra-droite, du groupe d'ultra-droite?
Bah écoutez, d'abord, mon cher Adil, il faut replacer les choses dans leur contexte. Les zouaves, savez-vous, sont des soldats d'infanterie coloniale, connus pour leur uniforme étonnant, avec ce pantalon rouge et large. Ce corps de soldats redoutable a donc été créé lors de la conquête de l'Algérie en 1830. Au départ, il était exclusivement...
À la guerre de Crimée.
Ah, ça c'est après, mon cher.
C'est dès le début de la conquête.
Ah ben oui, moi c'est les restes qui me restent de ce que je sais, mais bon après vous...
Le zouave du pont de l'Alma.
Ah, exact, du pont de l'Alma, voilà, absolument.
Voilà, ce qui vous reste, vous, c'est les restes du fond de classe près du radiateur.
C'est ça. Moi, ce qui me reste, c'est un Walou, rien. Allez-y.
Donc au départ, ils étaient exclusivement composés de soldats indigènes, puis au fur et à mesure, ces unités devinrent mixtes pour finalement n'être plus composées que de non-arabes ou de non-berbères. Elles redevinrent mixtes quand se créa l'armée d'Afrique durant la Seconde Guerre mondiale. Ces unités d'élite s'illustrèrent dans les guerres napoléoniennes, celles de Napoléon III, bien sûr, le petit, notamment durant la fameuse guerre de Crimée avec la très illustre bataille d'Alma, où les Français vainquirent les Russes. Et c'était pour leur rendre hommage qu'a été réalisé le zouave du pont de l'Alma qui nous donne le niveau de la Seine lors des inondations.
Absolument.
Ils combattirent aussi au Mexique contre les Prussiens en 70 et durant la Première Guerre mondiale, toujours avec bravoure. Et les régiments zouaves sont décorés, comme vous Adil, mon cher, de la Légion d'honneur.
J'aimerais, mais bon, c'est pas le cas.
Ça viendra.
Oh, je ne la recherche pas forcément, vous savez.
Ça viendra, je vous la donnerai moi-même.
Ah, si c'est vous, oui. Pas de problème, avec grand plaisir.
On va vous bricoler un petit ruban rouge. Leur uniforme fut longtemps...
Il est fou ce docteur en fait. Allez-y docteur, c'est de votre faute, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Vous me faites rire.
Leur uniforme fut longtemps inspiré de la tenue traditionnelle masculine algérienne, assez originale pour les Français qui les voyaient lors des défilés paradés, d'où l'expression « faire le zouave » qu'on a souvent dû vous lancer.
Deux fois quand même.
Deux fois, vous avez vu Kamal Abina? Il me cherche, hein, non?
Ah là, c'est bon, là.
Il me cherche, hein.
On est habillé pour l'hiver. On les avait un peu oubliés, mais avec notre ami Z, ils sont revenus en grâce.
Zoro.
On les a vus s'illustrer lors du meeting de Villepinte, tabassant des membres de SOS Racisme.
Exact.
Et ceux qui se font appeler les Zouaves de Paris sont en fait un groupe d'ultra-droite comme génération identitaire ou comme le but de notre jeunesse. Quelques dizaines de hooligans dont l'objectif est la castagne, la baston, avec comme cible les antifas, les défenseurs des migrants, les LGBT, j'en oublie d'autres. Leur chef serait un dénommé Marc de Cacré, Valnerier, issu d'une bonne famille de l'ouest de la France, qui a déjà beaucoup donné à l'extrême droite. Il est, semble-t-il, allé lui-même combattre au Haut-Karabakh contre l'Azerbaïdjan il y a peu. Et ces zouaves de Paris se sont trouvés dans notre petit ressort agité, candidat à la présidentielle, même s'ils n'ont visiblement pas une grande culture politique, une cause à défendre. Leur violence fait que Gérald Darmanin, dont le grand-père aurait pu être un zouave, veut les dissoudre. Avec ces zouaves d'un nouveau genre, on est en plein paradoxe. Car que des défenseurs de la France éternelle contre l'islam rampant, l'immigration invasion, se reconnaissent dans des soldats issus des tribus kabyles ou arabes, ben si ça, c'est pas du grand remplacement à l'envers, alors je ne m'y connais pas.
C'est ça.
C'est un petit peu comme si les gars des cités s'appelaient la division Das Reich ou les légionnaires de Jean-Marie Le Pen.
Oui, exact.
Mais peut-être, Adil, que nous n'avons rien compris et que finalement, le grand remplacement n'est pas celui que l'on croit.
Exactement. C'est vrai.
Ceux qui se croient remplacés sont en fait eux-mêmes des grands remplaçants. Je m'explique car je vois que vous êtes un peu perdu, Adil.
Un peu, là.
De fait, les apprentis nazillons qui briguent les suffrages sont en fait les remplaçants du français modèle traditionnel de notre imaginaire. Tolérant, humaniste, universaliste, promoteur des droits de l'homme. Et donc, les remplacés sont en fait les remplaceurs. Et donc, comme on disait dans les cours de récréation, c'est celui qui le dit qu'il l'est.
Absolument, bravo, bravo. Bravo pour votre billet d'humeur, belle signature pour ce quoi de neuf, mon cher docteur Majid. C'est aussi une chef de service de l'hôpital Sainte-Camille aux Invalides chez les militaires. Merci mon cher docteur, à mercredi prochain sans faute.
Si Dieu nous permet.
Vous reviendrez certainement à l'antenne prochainement puisque je vais vous solliciter pour nous faire un petit point sur le nouveau variant, sur le Covid et sur cette flambée, mon cher docteur. Est-ce que, en quelques secondes, parce que je dois lancer la pub, mon réalisateur me dit, est-ce que il y a flambée, est-ce qu'il y a inquiétude chez les différentes urgences des hôpitaux de Paris ou des hôpitaux tout simplement?
Il faut savoir que depuis plusieurs mois, les urgences sont submergées, que les malades s'accumulent sur les brancards, qu'il est clair et évident que s'il fallait répondre à une demande d'hospitalisation en masse de patients, l'hôpital public n'est plus en mesure de le faire. Vous avez vu comme moi que l'un des services d'excellence, comme celui de neurologie du Kremlin-Bicêtre, vient de réduire sa capacité de 60%.
Oula.
Oui, c'est extrêmement inquiétant. Et là, on assiste à un naufrage, c'est le naufrage de l'hôpital. C'est la conséquence de 20 années de politique erratique d'apprentis sorciers, de gens qui ont eu comme ligne de mire la réduction des coûts avec une fermeture constante de lits, ce qui fait qu'on a atteint aujourd'hui ce qu'on appelle le seuil de désengagement et le seuil de découragement pour les personnels.
C'est triste, hein?
Moi, après 21 ans de carrière à l'hôpital public, je ne sais plus quoi penser.
On reviendra sur cette actualité. Merci mon cher docteur. À mercredi prochain et peut-être certainement cette semaine. Merci, bonne soirée. Bravo pour votre signature concernant le Quad 9, 19h35. Je lance la pub et on se retrouve tout de suite après avec Mehdi Belabbas, Gamal Labina pour la suite de nos sujets. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et on se retrouve à 19h39 avec justement les informés. Dernière ligne droite avec Gamal Labina. Gamal Labina qui est le porte-parole avec son mouvement, cofondateur. Son mouvement qui il a décidé de le relancer et d'en faire une bataille. Le mouvement des droits civiques, n'est-ce pas Gamal Labina? Au téléphone, donc pas en face à nous, mais celui qui est de l'autre côté, dans le sud de la France. Et il fait bon vivre d'ailleurs, du côté de Perpignan. Il a bien raison. Mehdi Belabbas, qui est toujours donc au sein des écolos, et aujourd'hui il est le coprésident de l'association de la mémoire des contre l'oubli. Je suis fatigué ce soir, c'est impressionnant.
Tu vas y arriver.
Je vais y arriver. Dites-moi messieurs, j'aimerais vous poser cette question sur le tout nouveau sondage concernant, donc lancé là il y a quelques semaines à peine avec ce cluster 17, segmente l'opinion justement en plusieurs groupes et qui met en tête, qui crédite aux intentions de vote Mélenchon à 13%. Moi, ça me paraît énorme. Alors, Mehdi Belabbas, qu'est-ce que vous nous faire dire? On veut nous faire dire que le troisième personnage, ce sera Mélenchon?
Je sais pas c'est ça. Ce qu'on veut nous faire dire, mais en tous les cas, ce qui est dit, c'est le, pour l'instant, celui qui est le plus constant dans son engagement à gauche, un programme qui a sorti une dynamique avec le Parlement populaire qui a quand même réuni beaucoup de monde, qui arrive encore à attirer de nouveaux militants et des personnalités. Donc c'est logique pour l'instant que Mélenchon, en tous les cas dans le bloc de gauche, soit devant, même si Yannick Jadot globalement dans les sondages.
Gamal Labina.
Je rappelle que Mehdi Belabbas est vert, donc il explique que Mélenchon se porte bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir à Mélenchon en particulier. Moi, je pense que les sondages ne sont qu'une mauvaise plaisanterie d'un cliché au quotidien qui ne veut rien dire.
Facile. Il mérite la sonnette. Facile.
Du tout, du tout.
Ouais, parce que oui.
Facile.
Il y a encore une semaine, on nous créditait du 23% à Madame Pécresse.
Je vous ai connu meilleur, Gamal.
On va y arriver, justement. Madame Pécresse qui montait de façon vertigineuse quand un Mélenchon était à 8. Madame Pécresse qui recule quand Mélenchon monte, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de vase communicant entre l'extrême droite ou la droite dure et Mélenchon. Donc, ces sondages sont très, très... très douteux en vérité et ne représente rien avant l'élection. Il faut regarder les sondages de toutes les élections précédentes, ça a toujours été pareil.
C'est effondrement
généralisé de ce qu'on croyait.
Alors pourquoi on fait des sondages ?
Pour l'instant, le corps électoral n'est pas encore figé. Moi, ce que je retiens dans un précédent sondage, c'est qu'un Français sur deux ne sait pas encore pour qui il va voter.
Oui.
Voilà, c'est ça.
C'est beaucoup.
Un Français sur deux est indécis. Donc pour l'instant, on n'est que dans des conjonctures. Ça donne une indication sur la tendance. Mais il faut le prendre avec beaucoup de recul, beaucoup de précautions, parce que tous les candidats ne sont pas encore bien déclarés. Il y a encore des mouvements qui s'organisent, des négociations. On a encore vu les discussions entre Anne Hidalgo et Yannick Jadot le week-end dernier. Il y a la primaire populaire qui est aussi en train de s'activer. Donc, quand on aura tous les candidats, on a aussi parlé, j'oubliais bien évidemment de l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira.
Ouais.
Quand on aura tous les candidats déclarés, on pourra peut-être avoir des sondages qui donneront des indications un peu intéressantes, mais pour l'instant, je pense qu'on est effectivement, comme l'a dit Gamal, dans des choses qui ne sont pas très sérieuses.
Alors pourquoi on fait des sondages, Gamal Abina et Mehdi Bellabas? Quel intérêt de faire des sondages, puisque vous êtes en train de nous dire c'est bidon, ça ne tient pas la route, ça nous a prouvé que pendant toutes ces dernières années, justement, ça n'a jamais été fiable. Pour qu'on continue.
Le problème du sondeur, de l'institut de sondage, c'est qu'ils travaillent. Ils sont là pour être payés, faire un travail et pour donner l'orientation. Donc c'est pour l'argent qu'ils font les sondages. Ceux qui écoutent les sondages, c'est une façon d'influencer peut-être le vote ou d'avoir une idée pré-votante, on dirait, une idée ridicule de ce qui se passera dans trois mois. J'ai envie de dire un truc, c'est que M. Macron n'est toujours pas candidat officiel. Il va l'être très vite. Et surtout, j'avais dit un truc, que les effets de boost comme ça, après une annonce comme Pécresse qui annonce qu'elle est candidate et qu'elle a été reçue dans ses primaires, elle monte puis elle recule. Zemmour qui était très haut à 15-16% qui recule, ça c'est pas sérieux. Ce qui va être sérieux, c'est à 15 jours ou 3 semaines de l'élection, le jour où les gens vont faire des véritables annonces très fortes,
ça, oui.
dans un contexte, dans une conjoncture qu'on ne connaît pas exactement, sans doute de sortie de Covid, parce que c'est ce qui est prévu par M. Macron. Et à ce moment-là, M. Macron va arriver comme un héros, il aura raison de se draper dans sa cape de héros, avec des candidats qui ne se seront sans doute pas, parce qu'ils ont un ego surdimensionné, mis d'accord, je parle de la gauche, qui est toujours atomisée et fractionnée, et qui ne pourra jamais laisser passer. Je rappelle quand même, et là c'est pour les Verts, je leur fais une petite fleur. Les Verts étaient abstenus à l'époque de la dernière élection présidentielle au profit de la gauche. Le résultat, ça a été un naufrage. Les Verts ne veulent pas s'abstenir cette fois-ci, ils veulent participer parce qu'ils ont des raisons de le faire. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, indépendamment des sondages, ce qui fait l'élection, c'est d'abord les hommes, pour commencer, et ce qui fait l'élection et le résultat des élections, c'est effectivement les personnes qui vont voter qui se décideront quasiment à la dernière minute. Je ne parle pas de ceux qui sont déjà encartés, que ceux qui sont à gauche de façon dogmatique. Je parle de tous ces indécis dont il vient dans les médias à l'instant. Qui, eux, ne se positionnent pas et se positionneront en fonction d'une actualité brûlante et non pas en fonction d'un agenda qui dure 6 mois.
Mehdi Bellabas.
Oui, et puis j'évoquais le fait qu'il y avait beaucoup d'indécis, et puis il y a aussi un très grand nombre d'abstentionnistes, des gens qui ont perdu le lien avec la citoyenneté, qui ne se déplacent plus pour voter, et dont on ne sait pas aujourd'hui, sachant que l'élection présidentielle reste l'élection qui mobilise le plus dans l'électorat, hein, on ne sait pas comment ces abstentionnistes vont se mobiliser. Est-ce qu'ils vont suivre Éric Zemmour? Est-ce qu'ils vont valider le quinquennat d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'ils vont encourager un sursaut de la gauche et des écologistes? Ce que moi j'espère à titre personnel. Ça, on ne le sait pas. Et vu la masse des abstentionnistes, et c'est d'ailleurs Mélenchon qui disait qu'il allait aller chercher des abstentionnistes, eh ben, quand on aura un peu plus de visibilité là-dessus, ce sera un petit peu plus clair, effectivement.
Dites-moi, messieurs, je voudrais juste vous donner, ce n'était pas prévu du tout dans le sujet, mais ce soir, Emmanuel Macron, le président de la République, s'exprime sur CTF1 avec un peu plus de 2 heures, justement, sur les différents chantiers qui l'attendent, mais aussi notamment le bilan. À quoi peut-on s'attendre, Gamal Abina et Mehdi Bellabas, ce soir? Candidat, pas candidat, bilan, quelle stratégie adopte Emmanuel Macron ce soir? Est-ce qu'il y aura une annonce de candidature?
Oh, c'est à peu près sûr qu'il va annoncer sa candidature. Il va faire un bilan général de ce qu'il a fait et de ce qu'il veut faire.
C'est pas un peu trop tôt de l'annoncer?
Non, parce qu'il est président. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Et puis surtout, il y a une chose importante. Il y a une chose très importante qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a un mouvement décliniste. Alors, c'est un mouvement qui a été décrit très bien dans le dernier livre de Johan Chapoutot, qui compte le bullshitisme, le déclinisme, le complotisme, tous ces mouvements-là qui s'imprègnent les uns les autres, donnent le sentiment que sur la classe politique en général, tout le monde dit que c'est la catastrophe. Le seul qui dit que ça va bien, qui disent que ça va bien, c'est Monsieur Macron. Lui, son bilan est merveilleux, il n'y a pas eu de problème, il a bien géré. Et c'est vrai que s'il sort de la crise du Covid victorieux, parce qu'il en prend le chemin, on est à 80% de vaccination, il y a pas, pour l'instant, on vit normalement, on n'est pas masqué dans la rue, bon, ça va beaucoup mieux, même s'il y a des difficultés, il y a des tensions. Mais il va arriver avec ce bilan, écoutez, j'ai sauvé la France.
Le nouveau conseil se réunit vendredi, il paraît qu'ils vont prendre des mesures supplémentaires.
Non, c'est blabla. Ils feront à chaque fois le coup, c'est pas vrai, ils vont rien faire du tout. Ils vont prendre des mesures ciblées de
façon.
Je ne sais pas si on peut ça mesurer, mais c'est ciblé. Ils ne peuvent pas prendre le risque de rendre impopulaire le gouvernement. Mais ce qui est sûr, c'est que M. Macron, il surfe sur un nuage. Pourquoi ? Parce que lui, il a eu l'intelligence, c'est là où on voit la stratégie. Il a eu l'intelligence de faire une chose que les autres n'ont pas su faire. Il a capitalisé sur un personnage lui-même, sa jeunesse, sa beauté, son côté sympathique. Et surtout, il a été littéralement siphonné la plupart des grands... des figures politiques les plus intéressantes pour faire un parti. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé, il a pas de parti, il n'est pas à gauche ou à droite. On ne le situe pas réellement, mais on voit bien qu'il est à droite, mais bon, il ne se situe pas là-dessus. Il a été siphonné, ce qui pouvait permettre de créer un grand mouvement politique qui a fonctionné, En Marche en l'occurrence, et qui rappelle un peu ce que Trump a fait aux États-Unis. Donc Trump est à droite, enfin, au début il était à gauche, puis finalement à droite, mais Trump a siphonné.
Au début il était à gauche, mais
il était à gauche,
c'est vrai. Absolument.
Alors que c'est
il a même bossé pour Clinton.
Clinton, absolument. Donc,
et pourtant,
absolument Trump. Et il a siphonné à droite. Il a siphonné un peu à gauche. Il a été ratissé large. Ben Macron a réussi à faire ça et il fait ce que malheureusement, j'allais dire, moi je suis pas de gauche particulièrement, mais ce que malheureusement la gauche ne sait pas faire. Eux, ils ont des problèmes d'ego. Ils veulent que la personne qui sauve la France, qui sera de gauche, soit le chef du parti. Et là, ça pour
c'est non, ça sera moi. C'est ouais, ça. C'est ça. Mais Djibril Abbas, alors, à quoi peut-on s'attendre? Est-ce que notamment cette annonce de candidature va être
va-t-il
déclarer sa candidature?
Emmanuel Macron, son intérêt, c'est de rester président de la République dans cette fonction jusqu'au bout, jusqu'au maximum pour capitaliser.
Et président de l'Union européenne désormais.
Oui, c'est ça. Et j'allais le dire. C'est en plus à partir du 1er janvier, la France prend la présidence tournante de l'Union européenne, ce qui va le conforter encore plus dans cette stature internationale, cette stature de chef de la République, et donc auquel les Français sont très attachés. Et donc, il y a cette fameuse primo sortant qui va jouer à plein en nom. Il serait fou de ne pas jouer cette carte-là et de partir trop tôt en campagne. Il dit qu'il est au travail. En plus, la France vit une crise extrêmement grave avec la crise du Covid, qu'il a géré, on peut en penser ce qu'on veut, mais plutôt...
Qu'il a géré bien.
Voilà, faut dire là.
Faut reconnaître.
C'est une affaire compliquée. Moi, je ne sais pas qui aurait fait mieux, qui aurait fait pire. Voilà.
On voit le reste de l'Europe déjà.
Voilà, de communication. Mais absolument. Je pense que.
Sa gestion sur le Covid a été.
À la fin,
pour l'intérêt politique de rester président le plus longtemps possible et dans la dernière ligne droite. Voilà. Une fois qu'il aura fait quelques discours pendant la présidence de l'Union européenne, une fois qu'il aura encore capitalisé davantage, que la crise du Covid sera la cinquième vague sera passée, et ben là, il pourra annoncer dans la dernière ligne droite qu'il est candidat. Mais là, ce serait, de mon point de vue, trop précipité. Il le fera pas de toute façon. Ce soir, il va faire un beau bilan.
Ouais.
Il va utiliser sa tribune présidentielle pour lancer des pistes programmatiques, pour indiquer qu'il est toujours là, au travail, conforter sa stature. Bon, on peut se poser la question, ça pose une question.
C'est aussi ça, les informés.
Ça pose une question d'éthique et d'égalité par rapport aux autres candidats.
Ouais,
sauf une tribune, présidentielle que les autres candidats n'auront pas. D'ailleurs, la question se pose de savoir est-ce que son temps de parole
est
comptabilisé par le CSA. Beaucoup d'autres candidats ont posé la question. Moi, je pense que ça, c'est une vraie question parce que dans l'absolu, je pense que ce soir, c'est aussi le candidat Macron qui va parler, même s'il n'a pas annoncé sa candidature.
Effectivement, Gamal Abina.
Je dis que
c'est aussi ça, les informés décryptés.
Oui, essentiellement, il a raison, mais sur un point, c'est vrai que ce serait malhabile de sa part d'annoncer sa candidature, parce qu'à ce moment-là, il doit décompter son temps de parole. Mais j'ai envie de dire que maintenant, on ne peut pas lui faire le procès de prendre la parole, parce qu'il profite évidemment de sa posture de président.
Bah oui.
On ne va pas lui faire ce procès, parce qu'ils l'ont tous fait déjà pour commencer, et puis surtout parce qu'on est en crise. Il ne peut pas se permettre de comptabiliser son temps de parole, alors qu'il doit intervenir pour des raisons qu'on a bien comprises aujourd'hui. Alors évidemment, c'est la prime au sortant. Évidemment, il prendra la parole autant de fois qu'il voudra, parce que ce n'est pas décompté. Et évidemment, c'est une inégalité de traitement par rapport aux candidats concurrents qui, eux, se sont révélés. Donc c'est vrai que.
Et il est président.
Après, on peut être surpris, parce que Macron est capable de surprendre tout le monde. Mais je pense qu'il ne va pas prendre ce risque de cette crise.
Messieurs, je voudrais juste vous entendre parce qu'on vient de me faire signe qu'il reste quelques minutes avant de rendre l'antenne et j'aimerais juste, effectivement, concernant le Covid-19 qui commence à occuper un peu, réoccuper même d'ailleurs l'esprit, beaucoup trop d'ailleurs, j'ai entendu dire en échangeant, vous savez quoi, tout à l'heure, ce matin, avant-hier, etc., que les gens en avaient marre, qu'ils avaient plus du tout le moral. Alors, comment contrer le nouveau, évidemment, variant et puis surtout, comment faire face avec, évidemment, cette nouvelle situation Gamal Abina et on a deux minutes, donc quelques secondes chacun. D'accord. Et enfin, Mehdi Belabbas.
Très rapidement, le nouveau variant, c'est une plaisanterie. C'est une façon.
Mais arrêtez, Gamal.
Non, mais je suis sonnette.
Sonnette. Aïe, aïe, aïe.
Alors pourquoi j'ai dit ça?
Il a droit de sonnette.
De sonnette. Pourquoi j'ai dit ça?
Je motive. Ça tue.
Non, mais je motive mon.
Attention.
Bon. Non, ça tue, c'est pas la question. Ça tue autant que les autres. Bah, le truc, c'est que ce qui fait peur permet de pousser les gens à la vaccination. C'est logique. Il n'y a pas de problème, c'est de bonne guerre. Mais ça fait au moins 5 variants différents qu'on nous annonce qui devait être une catastrophe. Ils ont le même effet à chaque fois. Et je comprends qu'on soit précautionneux là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais de là à capitaliser sur un variant sud-africain, comme d'habitude, toujours, ils viennent de loin, ils ne viennent jamais d'Europe. Hein. On se demande où sont les variants européens. C'est un truc particulier. Vous avez remarqué quand même, ils viennent toujours d'Afrique du Sud, du Brésil.
Il a eu le droit à beaucoup de sonnettes ce soir, Gamal Hamida.
Le sud prend cher quand même. Hein. Ils ont des variants, ils ne
vont pas. Mehdi Belabbas.
Je ne vais pas suivre Gamal sur cette ligne-là.
Alors vous aussi, vous avez le droit à la sonnette.
Je pense que ce variant, il est comme les autres et que la vaccination, les gestes barrières, le fait que, au fur et à mesure, mine de rien, on développe une immunité collective, on supporte mieux cette vague-là. Il y a une étude qui a montré, là, qui est sortie hier, que ce variant, il n'était pas plus agressif ou plus mortel que les autres.
C'est pas une question de plus agressif, il va plus vite, il contamine plus vite, il est plus rapide, voilà.
En tous les cas, à titre personnel, moi, je pense que la vaccination, c'est important. On a eu tout à l'heure notre docteur qui nous a décrit la situation dans le secteur hospitalier. Donc c'est une maladie sérieuse, voilà, qui envoie des gens aux urgences, qui envoie des gens en réanimation, qui tue encore malheureusement trop de gens, et donc il faut la prendre au sérieux.
Et bien merci Mehdi.
Et il faut que les Françaises et les Français se fassent vacciner, qu'on soit plus vigilants sur les gestes barrières, surtout dans cette période de fête.
Absolument, vigilance. Voilà. Mehdi, c'était un plaisir de vous retrouver sur l'antenne désinformé. Vous reviendrez depuis Perpignan.
Écoutez, quand vous voulez, Adil.
Eh bien, franchement, Mehdi, c'était plaisir. Merci à Gamal Hamida.
Merci encore.
Avec son nouveau mot, la relance du mouvement.
UNDC, mouvement.
Absolument. Mais Mehdi, il est parti, ça y est. Et bonjour à Perpignan. Bilal Nedman vous donne rendez-vous de 20h à 21h. Quel est le programme,
Bilal? C'est chaud, ben justement.
Pourquoi ça va être chaud?
Parce que on voit que la Tunisie file. Eh oui, les Aigles de Carthage.
Exactement.
File en finale de cette Coupe arabe.
Ça y est.
Eh oui, au Qatar.
Ils ont leur ticket.
C'est ça. Face aux Égyptiens, Pharaon. Et ce soir, 20h, c'est l'Algérie qui rencontrera
le Qatar.
On sera tous derrière.
Absolument.
On verra aussi, on reviendra sur, avec Alibi Montana, notre invité, et aussi Danny Dan, qui est, on va dire, le chef de troupe de cette équipe Breakdance pour Paris 2024, tout au long de l'émission. Et on parlera du but et du 7-0 de Guardiola et ses hommes face à Marcelo Bielsa.
Chaud ce soir, dites donc à l'autre. Yes, ben écoutez, c'est ce qui vous attend ce soir de 20h à 21h avec Bilal Nedman. Merci à la réalisation, à Giovanni. Merci à vous tous. On se retrouve demain, vous le savez, avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.